RMC, face aux grandes gueules.
Marquis, on peut poser la même question. Est-ce que du côté d'Horizon, ils sont prêts, oui ou non, à 2027? C'est Jérémy Patrier-Létus qui est avec nous, député Horizon du Calvados. Il a été la président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Bonjour, monsieur le député.
Merci de m'accueillir.
Votre candidat, c'est Édouard Philippe. On va en parler. Mais monsieur le député, seriez-vous prêt à vous soumettre à un test salivaire antidrogue?
Quand vous voulez.
C'est normal. Alors on a juste un huissier qui est là.
Ah bah vous pouvez y aller.
Il va entrer sur le plateau.
Je ne vois pas, j'ai aucun vice en tout cas.
Mais
pas,
est-ce que Sébastien Lecornu a raison de tester ses collaborateurs et de vouloir tester plus largement les fonctionnaires?
Que de dire que ceux qui font la loi, qui la mettent en œuvre, que dans l'exécutif, que les législateurs, effectivement, ne prennent pas de drogue et font la loi en évitant d'être alcoolisés, ça me paraît assez simple.
On aurait sans doute
raison. Enfin, regardez chez moi. Moi je suis dans le pays d'Auge, il y a des contrôles routiers tous les dimanches, tous les samedis. L'ensemble des Français se soumettent à ces tests sur les contrôles routiers. Donc,
on aurait des surprises
pourtant,
à l'Assemblée.
C'est du calva là-bas.
Et pourtant c'est du calvados.
Ah, on aurait des surprises à l'Assemblée nationale.
Moi, j'en sais rien, en tout cas pas chez nous.
Pas Horizon.
Demandez à d'autres groupes politiques.
C'est pas les plus fêtards.
Comment?
Semble-t-il.
Bon, on travaille à l'Assemblée, ouais.
On peut faire la fête.
Oui, enfin, on n'est pas obligé d'être drogué et alcoolisé quand on fait
la loi. Quand on regarde le parti Horizon et ses figures, on se dit pas spontanément qu'ils passent leur nuit au Pacha à Ibiza. C'est juste ça que je...
Alors que vous, oui, Charles.
Mais je le dis pas sans, mais je le dis sans méchanceté, je le constate.
Mais ça veut dire qu'on demande à ceux qui nous gouvernent de l'exemplarité. On n'est pas sûr de l'avoir, cette exemplarité. Parce que si Sébastien Lecornu est obligé de faire ses tests, qui lui-même, il a un doute. Il se dit, ouais, peut-être qu'autour de moi, il y a des problèmes.
On va pas faire semblant de pas savoir qu'il y a eu des députés qui ont, si c'est pas trafiqué de la drogue, en tout cas, en ont consommé. Il y a eu effectivement dans l'appareil d'État quelques cas effectivement de consommation de drogue. Et donc de dire que l'exécutif, le législateur sont exemplaires et ne consomme pas ni de drogue ni d'alcool quand il travaille, ça me paraît normal.
Mais est-ce qu'il va
normal.
Le faire au moins?
Vous lui demanderez, il viendra vous le dire, je pense qu'il le fera.
Est-ce que c'est utile?
Comment?
Est-ce que c'est utile
ou c'est de la com?
Est-ce que derrière on fera le ménage jamais on s'en aperçoit?
On va pas faire le débat entier sur ce sujet, mais ça permet de détecter quelques cas concrets, ça sera déjà ça.
Édouard Philippe sera peut-être président dans moins d'un an. En attendant, c'est le roi du silence.
Ah bon?
C'est une stratégie?
Moi, j'ai pas trouvé. Hier, il était à Vivatech où il a parlé de sa stratégie pour l'intelligence artificielle. Il était il y a quelques jours dans un département rural pour parler agriculture. Il a parlé justice dans une grande interview dans Le Parisien. Je sais que depuis des mois, depuis qu'il est candidat à l'élection présidentielle, on explique qu'il ne parle pas. Moi, je vois des annonces
très
concrètes.
Alors, on ne l'entend pas alors?
Comment?
C'est pire, c'est qu'on ne l'entend pas.
Ah bah
parce que vous dites qu'il parle, mais donc on ne l'entend pas.
Il faut savoir, parce que moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours une caricature de ce qu'il avait dit dans un podcast sur l'intelligence artificielle.
Ah, c'était moi.
C'était vous d'ailleurs qui l'avez caricaturé.
Moi, donc alors,
pour certains, il parle trop et mal, pour d'autres, il ne parle pas.
Alors, il faut expliquer.
Mais moi, je vais vous dire, il a des propositions très concrètes. J'espère qu'on pourra en parler, parce qu'il a parlé sur l'agriculture, il a fait un déplacement très concret avec des propositions très concrètes.
Des positions, tout le monde en a, ouais.
Oui, mais il a des mesures
alors,
concrètes.
Alors, il était chez l'entrepreneur Mathieu Stéphanie dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, et à un moment, donc Mathieu Stéphanie, comme tous les entrepreneurs, est très porté sur les questions d'IA, donc ne serait-ce que quand on sait qu'on va à son micro, on sait qu'on va parler d'IA, ça paraît assez évident. Et il lui dit, alors l'IA, et là Édouard Philippe fait vraiment pour moi la caricature de la réponse d'Énarque qui met trois mots compliqués bout à bout et qui pense qu'il va contourner la question comme ça. Et donc il dit je sais plus exactement ce qu'il dit, mais oui, j'ai déjà utilisé ChatGPT bien sûr comme tous les Français, enfin bon. Et là Mathieu Stéphanie, qui est un intervieweur, il est pas là pour, est tellement outré qu'il lui répond vous savez, vous devriez vraiment vous y intéresser parce que là on est à un an d'une présidentielle et voilà. Moi le truc qui me fait réagir, c'est que les plus grands chercheurs du monde entier expliquent d'une seule voix que l'IA est la plus grande révolution que l'histoire de l'humanité aura connue. Harari, un mec qui vend des best-sellers et qui est un des plus grands chercheurs aujourd'hui, il dit que c'est une invention plus importante que la bombe nucléaire. Donc moi, mon commentaire, c'était de dire, imaginez un dirigeant politique au lendemain d'Hiroshima, dire oui, la bombe nucléaire, oui, non, mais c'est un sujet, hein. On aura des idées pour répondre. Oui, on s'y intéressera. Imaginez.
Il y a eu beaucoup de caricatures de cet extrait. Je rappelle juste, je vais pas être trop long, Édouard Philippe premier ministre a lancé une stratégie sur l'intelligence artificielle. Il n'est pas premier ministre depuis 2 mois, qui demande à Cédric Villani, un des grands chercheurs mathématiciens, de réfléchir.
Rapport, oui.
Non, mais de fixer, plus qu'un rapport, de fixer une stratégie sur l'intelligence artificielle. Hier, à Vivatech, il a, et vous pouvez contester les mesures, mais il a présenté sa stratégie très concrète pour faire de la France un acteur majeur de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'enjeu? Et vous avez raison. D'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit. On a eu le charbon, grande révolution du 19e siècle. On a eu le nucléaire. Aujourd'hui, l'IA, c'est la révolution sans doute la plus importante du pays et du monde dans les années à venir. Et la France ne peut pas manquer cette révolution technologique. Et donc, il faut des propositions très concrètes pour que la France ne soit pas soumise.
Lesquelles, par exemple?
Je vais vous donner une réponse très claire. Pourquoi les Chinois et les Américains sont en avance sur la question de l'intelligence artificielle? Parce qu'ils utilisent la commande publique. C'est-à-dire qu'ils font appel, aujourd'hui, à la préférence nationale. La France, l'Union européenne, ne le fait pas. Édouard Philippe propose très concrètement qu'on puisse utiliser la commande publique française, européenne, pour développer l'intelligence artificielle. Il y a 4 ans, et je termine là, personne n'en parlait. Pour faire de l'intelligence artificielle, pour être souverain, pour être indépendant, il faut des ingénieurs. Il nous manque 100 000 ingénieurs par an. Édouard Philippe était seul en 2021, je le dis, quand il lance Horizon au Havre, j'y étais, en expliquant que les Chinois formaient 1 million d'ingénieurs par an, que les Américains pareil, que nous, la France, on n'était pas capable de former des ingénieurs alors qu'on a des écoles d'ingénieurs remarquables. Donc avec, par exemple, le développement des formations d'ingénieurs. Qui a développé l'apprentissage en France? Pardon, je ne veux pas vous...
Non, c'est
le
très intéressant ce que vous dites.
Qui a développé l'apprentissage?
Mais du coup,
Édouard Philippe, 1 million d'apprentis en France.
Mais du coup, vous êtes en train de faire un virage idéologique du libéralisme vers une forme de souverainisme, de protectionnisme.
Non, il est hyper étatiste. J'ai une question.
On peut admettre que sur certaines technologies pionnières, il faille un accompagnement de l'État. Pour amorcer la révolution de l'intelligence artificielle, bien sûr qu'il faut l'État. Bien sûr qu'il faut une stratégie de l'État. Ça n'empêche pas qu'ensuite il y a des entreprises et que le marché va jouer son rôle. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, face aux géants américains et chinois, au protectionnisme américain et chinois, il faut que la France et l'Europe se protègent et développent une stratégie d'intelligence artificielle.
Tu parles, Charles.
Mais de toute façon, Édouard Philippe est très étatiste. Il le reconnaît, il l'assume et il a le droit. Moi, c'est plus une question de. Je trouvais qu'Édouard Philippe avait un côté quinquagénaire cool, assez sympa quand il était premier ministre. Et on a le sentiment que depuis qu'il se rapproche de l'Élysée, comme s'il était un peu submergé par la perspective de cette charge. Tout se complique dans sa tête et dans son verbe. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas entendu une phrase claire et simple de sa part. C'est toujours des espèces de raisonnements et des manières de dire les choses très compliquées. On sent qu'il veut pas déclencher une polémique, fâcher quelqu'un, s'aliéner je ne sais quel courant. Est-ce que il devrait pas un peu se détendre et voilà, redevenir le gars qu'il était?
Le type cool?
Oui, moi je trouvais qu'il avait le côté droite cool. J'ai déjà dit ici, Peugeot 5008, bande de copains, Edouard mon pote de droite. Vous voyez, et on a le sentiment que là, tout ça se tend beaucoup. Ce jupéisme, la grande force.
Ça c'est la caricature à chaque fois.
Mais j'entends.
Je vous trouve très nuancé, Charles.
C'est pas aussi du tout, c'est un constat, encore une fois.
Moi, je vois quand même un candidat qui se prépare à l'élection présidentielle de manière sérieuse. On peut pas lui reprocher, honnêtement, on a vu les candidatures improvisées en 2022, les candidats qui se déclaraient 15 jours avant et qui nous expliquaient qu'ils allaient transformer le pays. On peut pas reprocher à Édouard Philippe de se préparer depuis quelques années maintenant, de se déplacer partout en France. Alors effectivement, il le fait pas avec des millions de caméras, et quand il se balade en France, effectivement, il le fait pour aller parler aux Français et faire des propositions. Mais quand il va dans l'Ain, faire des propositions sur l'agriculture très concrètes, et pardon, il fâche des gens, il essaye pas de contenter tout le monde quand on dit qu'on va inscrire la protection de l'agriculture dans la Constitution. Je peux vous dire que ça fait pas consensus, on pourra en parler avec monsieur Giraud quand il dit qu'on va arrêter...
C'est pas ça qui va leur filer à bouffer aux agriculteurs. Ouais. C'est pas ça qui va augmenter leur salaire.
Attendez, on va... Proposition très, très concrète, vous voulez les propositions. Qu'est-ce que dit Édouard Philippe? Et vous le savez, aujourd'hui, on a voté des lois pour protéger, soi-disant, le revenu des agriculteurs en leur imposant des négociations annuelles avec les industriels. Folie. Édouard Philippe dit, on va revoir complètement le cadre des négociations entre les agriculteurs. Et puis, il y a un sujet majeur.
Les normes.
Soyons très clairs. Aujourd'hui, l'Europe, c'est en gros, vous le savez mieux que moi, 80-100 normes sur l'agriculture. La France en ajoute une centaine de plus. Ça fait 300 en tout. Édouard Philippe dit, c'est terminé, plus de surtransposition. On fera pas plus que ce que l'Union européenne fait. Et d'ailleurs, on va demander à l'Union européenne de faire un peu moins. Et donc, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés Horizon, vous avez devant vous un député qui n'a pas voté pour l'accord sur le Mercosur. C'est concret. C'est pas du blabla. C'est très concret. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit.
Le problème, c'est que personne n'a voté.
Tout le monde me suit, mais est-ce que je peux répondre?
Ah oui, merci. C'est Didier.
Concrètement, les normes, chaque ministre de l'Agriculture qui se sentait indestin nous l'a promis, cet allègement de normes. Mon quotidien d'agriculteur, il fait que se complexifier.
Donc plus on promet un allègement, plus il y en a.
Plus c'est la merde. Si je prends par exemple le dernier truc en date, c'est la procédure à travers des codes, des sites, des recodes qu'il faut changer tous les 3 mois dans un site dédié du gouvernement pour obtenir 4 centimes de remboursement sur le gasoil non routier, peut-être bientôt 15. C'est fait pour décourager les gens, voilà. Oui. Et je crois que les agriculteurs vont se porter bien si on dégage tous les offices comme l'OFB, le machin, le truc. Moi, je peux parler du loup pendant 2 heures si vous voulez, quoi. Mon plus proche voisin s'est fait bouffer un veau. La réponse qui lui a été faite, c'est le loup n'est pas exclu, voilà. Le loup n'est pas exclu. Et ben ça, les agriculteurs, ils en peuvent plus. Et tout le monde leur promet que ça ira mieux. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 30 ans qu'on continue à me faire chier du lever du jour au coucher du soleil. Voilà. Et je peux même plus produire ce que je veux parce que des multitudes de produits sont interdits pour produire alors que mes voisins européens ont ces produits-là. Voilà.
Vous avez parfaitement raison et votre colère, vous voyez, moi qui suis de l'Ivaro notamment, je l'entends tous les jours, mes agriculteurs.
Vous auriez dû venir avec un cadeau.
Une réponse quand même concrète qu'apporte Édouard Philippe. Ouais, on est attaqué par les mouches. Charte de l'environnement est dans la Constitution. Je vous réponds parce que c'est important, parce qu'effectivement, tout le monde dit on va simplifier, on va déréguler, on va alléger les normes, et ça ne se fait pas. Pourquoi ? Quand on vote des lois pour simplifier les normes sur les agriculteurs, le Conseil constitutionnel censure d'une partie de la loi agricole. Pourquoi ? Charte de l'environnement dans la Constitution, l'agriculture, la protection des agriculteurs n'est pas dans la Constitution. Qu'est-ce que propose Édouard Philippe ? Et c'est une mesure forte. Elle n'a pas été assez sans doute expliquée, mais je l'explique en 2 minutes ici. Dire que demain, dans la Constitution, on reconnaîtra le principe de sauvegarde des agriculteurs et d'agriculture. Ça veut dire demain, le Conseil constitutionnel...
Donc on supprime la Charte de l'environnement ?
Non, c'est pas exact. C'est pas ce qu'on dit. On dit que demain, le Conseil constitutionnel ne pourra plus censurer des mesures d'allègement des normes vis-à-vis des agriculteurs, tout ce que
donc
vous venez de dire.
Donc on pourra rétablir des pesticides partout.
Parce que, c'est pas non plus, je suis pas dans la caricature, c'est pas ce que j'ai. Je dis qu'on reconnaîtra, au même niveau que la Charte de l'environnement, la protection et la sauvegarde des agriculteurs. C'est-à-dire que demain, si on décide
c'est ton
d'alléger,
droit à bouffer en toute indépendance,
au lieu d'interdire les produits, plein de produits phyto de l'étranger, on autorise les nôtres à en remettre.
C'est pas ce que je dis. Ça veut dire que demain, quand on allègera, vous m'écoutez pas. Ça veut dire que demain, quand on allègera des normes, que l'Assemblée votera l'allègement des normes, le Conseil constitutionnel ne pourra plus dire c'est pas
derrière.
Possible,
voilà.
Parce
mais
que vous... c'est pas constitutionnel. On mettra au même niveau la Charte de l'environnement. Moi, je suis attaché, Édouard Philippe, aussi à la transition écologique, mais la transition écologique ne peut pas se faire contre les agriculteurs. C'est ça qu'on dit.
Mais c'est pas contre les agriculteurs, mon cher. C'est pas contre les agriculteurs. C'est contre votre droit à l'indépendance alimentaire demain.
À la souveraineté alimentaire. Et il faut concilier deux. On peut pas avoir la Charte de l'environnement dans la Constitution et pas les agriculteurs et l'agriculture. C'est pas possible.
Pourquoi est-ce que les Français voteraient pour un ancien Premier ministre Emmanuel Macron ?
Alors, une autre question. Peut-être parce qu'ils veulent éviter effectivement.
Pourquoi est-ce qu'ils continueraient ?
Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il ne faut pas caricaturer Édouard Philippe. Si vous me permettez deux secondes.
Il a été Premier ministre Emmanuel
Macron.
Ça, c'est pas une caricature.
Et je vais vous dire, c'est une bonne question. Je ne rougis pas de son bilan comme Premier ministre. Je ne vais pas vous faire la liste ici de ce qu'il a fait comme Premier ministre, parce qu'on parle toujours du 80 km/h et des gilets jaunes. Mais enfin, comme Premier ministre, qui a dédoublé les classes en CP et CE1, qui a augmenté pour la première fois le budget de la justice, qui a recruté des policiers et des gendarmes, qui a essayé comme Premier ministre de transformer la France. Je pourrais vous faire la liste. Honnêtement, il n'a pas démérité comme Premier ministre, et je pense que les Français gardent quand même l'image, et Charles l'a dit tout à l'heure, d'un Premier ministre qui a essayé de tenir le cap et de tenir la barre dans des conditions pas faciles. Maintenant, peut-être qu'ils voteront Édouard Philippe, en tout cas moi je le souhaite, pour éviter le programme socialiste de Marine Le Pen et le programme insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être pour éviter la France bling-bling de Bardella et la Nouvelle France et la Nouvelle France de Mélenchon.
Est-ce que c'est pas ça le problème d'Édouard Philippe ? Ça sera pas un vote d'adhésion, mais ça sera un vote contre pour empêcher Mélenchon et Bardella. Et d'ailleurs, je pense que dans les sondages, les gens disent Édouard Philippe parce qu'ils veulent pas de Mélenchon. En fait, vous n'arrivez pas à transformer ce vote en un vote d'adhésion et d'enthousiasme autour d'Édouard Philippe.
Mais moi, quand j'ai vu le thème du débat, J'ai dit exactement comme vous, Édouard Philippe, il va pas gagner simplement pour faire barrage à Marine Le Pen, à la France Bling Bling de Bardella, à la Nouvelle France de Mélenchon. Ça fait pas un programme. Édouard Philippe, il doit gagner avec des propositions concrètes, massives sur la justice. Pardon, dans Le Parisien, dimanche dernier, il a des mesures très concrètes pour protéger nos enfants.
D'accord.
Parce que l'État a failli, qu'on est infoutu en France de protéger nos enfants.
Il mais a fait des propositions concrètes. Quand est-ce que vous allez proposer Non mais moi, juste je vous dis, comme 53... Oui mais une phrase. Comme 53% des Français, je suis orpheline politiquement en vue de cette présidentielle. On est 53% donc, on est majoritaire. Moi j'attends, Édouard Philippe, ça pourrait être un recours, puisque moi je suis anti-extrême. Voilà, j'attends de voir ce qu'il a à dire sur l'IA, sur la transition écologique. Mais je n'entends rien. Quand est-ce que vous allez nous proposer un programme?
En un mot. Regardez, parce qu'il parle, et il faut aussi entendre quand il parle. Hier, proposition sur l'IA, proposition sur l'agriculture, proposition sur la justice. Il va décliner ses propositions et rendez-vous le 5 juillet.
Ah
il y aura un grand meeting.
M'intéresse.
Eh ben venez, vous êtes la bienvenue.
Mais c'est pas possible.
Vous êtes mon invité. Le 5 juillet. Et Charles aussi d'ailleurs.
Charles, le 5 juillet.
Il nous reste.
Vous n'avez rien à faire, c'est un samedi, il fera chaud.
S'il y a Charles et moi dans la salle, c'est que vous arrivez à faire
des choses. Il y aura une ambiance. Il nous reste 30 secondes. Je voudrais simplement vous remontrer une séquence qui avait fait beaucoup de buzz. Écoutez.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là?
C'était avec Charles Alloncle.
C'est devenu culte.
C'était vous, lors de la commission sur l'audiovisuel public. Vous êtes toujours pote avec Charles Alloncle ou pas, là?
On a passé 6 mois ensemble comme un vieux couple qui a passé six mois.
Vous avez divorcé. C'est non, pas beaucoup pour un couple 6 mois. Hein.
Ouais, vous savez, aujourd'hui malheureusement c'est un enjeu. Les couples ne durent pas. Non, mais plus sérieusement, on a eu des vraies oppositions idéologiques. Moi, j'ai essayé de lui permettre comme président qu'il puisse faire son travail. La commission d'enquête est allée à son terme. Il a pu mener ses auditions. Maintenant, on a des différences fondamentales, y compris politiques. Et je vais vous dire, Charles Alloncle, il faut qu'il assume de soutenir Jordan Bardella et Marine Le Pen à la présidentielle et qu'il soutient des candidats qui veulent privatiser l'audiovisuel public. On va pas refaire le match aujourd'hui.
Mais votre problème, c'est pas Charles Alloncle en ce moment, c'est ni Mélenchon ni Bardella.
Ah, c'est vous qui m'en parlez.
Non,
c'est
mais votre problème, c'est Gabriel Attal.
Pour parce pas que ça devienne horizontal.
Bah, Charles Alloncle n'est pas candidat à la présidentielle.
Non, mais Gabriel Attal, en revanche, il l'est. Et aujourd'hui, vous n'avez pas tué le match. Et je vois que Gabriel Attal, d'ailleurs, dans les sondages, vous grappille quelques points ici ou là. Et donc, il vous rattrape. Donc, aujourd'hui, votre problème, c'est Attal. Non,
aujourd'hui, nos adversaires... Attends, on ne va pas se tromper de match. Le match,
Il y a un premier match, c'est celui-là.
Nos adversaires...
Vous ne l'avez pas gagné encore.
Nos adversaires, c'est la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, je vous l'ai dit. La France Ligue Bardella, OK.
Oui,
maintenant,
on a compris, sauf que...
Il ne faut pas se tromper d'adversaire.
Pour vous trouver au deuxième tour, il va falloir gagner un premier match.
Il faut gagner un premier match. Et c'est pour ça qu'Edouard Philippe formule ses propositions, fait campagne sur le terrain, rendez-vous le 5 juillet. Et les Français verront si, à l'occasion de ce meeting, ils souhaitent faire confiance à Édouard Philippe. En tout cas, moi, je crois qu'il est le mieux placé, effectivement, du bloc central, comme les sondages l'indiquent, même s'il ne faut pas toujours prendre les sondages comme parole d'évangile. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est le mieux placé pour battre et le Rassemblement national et la France insoumise dans les urnes en 2027.
Merci, Jérémy Patrieletus, député Horizon du Calvados, d'être venu dans les GG, dans les grandes gueules.